Le rayon BD, Pénélope et les sorcières.
L'enfant n'est plus un enfant. L'enfant est une souris.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Rayon BD, l'émission de bande dessinée de France Culture pour une rencontre aujourd'hui avec une autrice consacrée en France et dans le monde. Elle a reçu l'été dernier un Eisner Award au Comic Con de Los Angeles pour ses culottés, ces femmes qui ne font que ce qu'elles veulent et dont elles dressent les portraits. Ces culottés qui ont déjà été traduites en 17 langues et qui sont à présent adaptées en séries télévisées. On pourra voir ça le 8 mars sur France 5. Et voilà qu'aujourd'hui, Pénélope Bagieux, puisque c'est elle, notre invitée, adapte Roald Dahl en bande dessinée. Faut-il présenter Roald Dahl, écrivain britannique décédé en 1990, auteur de nombreux romans, de nouvelles, de récits autobiographiques, écrit pour les adultes, si l'on peut dire, mais surtout connu comme l'un des plus célèbres et des plus populaires auteurs de romans pour les enfants. Charlie et la chocolaterie, James et la grosse pêche, Le bon gros géant, La potion magique de Georges Bouillon ou Le fantastique Maître Renard, et Sacrée sorcière, dont nous allons parler aujourd'hui. Dans les contes de fées, les sorcières portent toujours de ridicules chapeaux et des manteaux noirs et volent à califourchon sur des balais. Mais ce livre n'est pas un conte de fées. Nous allons parler des vraies sorcières qui vivent encore de nos jours. Ouvrez grand vos oreilles et n'oubliez jamais ce qui va suivre, c'est d'une importance capitale. Voici ce que vous devez savoir sur les vraies sorcières. Les vraies sorcières s'habillent normalement et ressemblent à la plupart des femmes. Elles vivent dans des maisons qui n'ont rien d'extraordinaire et elles exercent des métiers tout à fait courants. Voilà pourquoi elles sont si difficiles à repérer. Bonjour Pénélope Bagieux.
Bonjour.
Vous aviez 8 ans, je crois, quand vous avez lu ces premières lignes de Sacrée Sorcière pour la première fois. Est-ce que vous vous souvenez de l'effet qu'elles ont produit sur vous ?
Les premières lignes, non. Mais alors certaines scènes du livre, je me souviens très très bien puisque je n'arrivais pas à reposer le livre. Il fallait que je sache ce qui allait se passer et j'étais terrifiée. J'étais vraiment pétrifiée de peur.
Vous aviez 8 ans quand vous avez commencé ce livre. Vous ne croyez déjà plus aux sorcières, aux sorcières des contes de fées. Vous saviez que le balai, le nez crochu, le grand chapeau noir, c'était des histoires pour les enfants. Et Roald Dahl, lui, il a réussi à vous remettre le doute.
Mais c'est la force de Roald Dahl, c'est de parler aux enfants comme à des grands et de leur dire, tu sais, en fait, c'est pas vraiment les gentils qui gagnent. Tu sais, parfois les adultes sont malveillants. Tu sais, en fait, il y a les sorcières de contes de fées, mais c'est pas de ça qu'il faut que tu te méfies. Et je pense que quand on a un lecteur enfant et que tout d'un coup Roald Dahl nous parle très sérieusement de choses qui font peur, ça fait beaucoup plus peur que tous les monstres qu'on a rencontrés jusque-là.
Ces premières lignes que j'ai lues, dans ce premier chapitre qui est un peu comme un prologue, on ne sait pas vraiment qui parle, c'est pas encore le petit enfant qui va être le narrateur et qui dira « je ». Enfin, on ne sait pas si c'est lui, mais il n'y a pas de « je ». Dans votre livre à vous, Pénélope Bagieux, puisque vous adaptez « Sacrée sorcière » en bande dessinée chez Gallimard, je voulais parler des toutes premières pages, commencer par les toutes premières pages, puisque vous commencez par une scène d'ouverture extraordinaire, qui est une scène d'action, une scène de 3 pages, qui se passe dans le ciel d'une grande ville. Comment l'idée de cette scène d'action vous est venue ?
En fait, je voulais qu'on soit justement dans cet imaginaire de créatures magiques. Il y a un chien géant, il y a des voitures qui volent. Et puis en fait, je spoil ma page 4, mais en fait ce sont des jouets avec lesquels est en train de jouer le héros qui s'imagine des histoires de sorcières de manière très classique. C'est-à-dire justement c'est une sorcière sur son balai, je fais une sorcière verte, comme la sorcière du magicien d'Oz qui pour moi est la sorcière absolue de la fiction. Et puis, et très vite, on est plongé dans quelque chose de beaucoup plus brutal. C'est qu'en fait, le petit héros est en train de jouer avec ses petits jouets sous l'escalier le jour de l'enterrement de ses parents. Puisque, comme dans toute bonne histoire pour enfants, le héros est orphelin au début de l'histoire.
Voilà. Voilà. Et donc, cette première scène, c'est un peu comme le prologue de Roald Dahl. C'est une façon de dire, il y a le jeu, et maintenant le jeu est fini. On va parler de la vraie vie, des vraies sorcières. Voilà. Et c'était une façon graphique de l'installer. C'est aussi une scène d'action. Il y en a beaucoup de scènes d'action dans ce livre. C'est pas la première fois que vous dessinez des scènes d'action, mais c'est pas non plus votre habitude. Et là, vous y allez à fond dans les scènes d'action, dans le rythme, dans les cadrages, dans les trouvailles graphiques. Est-ce que c'était un plaisir de dessiner ces scènes-là?
En fait, quand l'idée m'est venue d'adapter Sacrée Sorcière, c'est la raison pour laquelle je me suis dit qu'il fallait le faire. C'est que je trouve que j'aime toute l'œuvre de Roald Dahl, mais je trouve que Sacrée Sorcière, c'est fait pour être une BD. Vraiment, c'est que c'est de l'action pure, ça n'arrête pas. Il se passe des tas de choses, c'est complètement extraordinaire les aventures que vivent les héros. Et je le voyais vraiment comme une succession de scènes d'action. Donc je savais que j'allais devoir me frotter à ça. Effectivement, c'était pas beaucoup le cas dans mes livres d'avant, mais j'avais très envie justement de le faire et c'était une des raisons pour lesquelles ce livre a été très agréable à dessiner.
C'est étonnant que vous disiez que c'est une succession de scènes d'action parce que dans celui-là, il m'a semblé, comme dans tous les Roald Dahl, il y a aussi des longs moments de dialogue, c'est-à-dire de la grand-mère qui explique, qui raconte des histoires du passé, des histoires de beaucoup de personnages. Mm-hmm. Et donc il y a aussi des grands moments un peu didactiques auxquels il a fallu se frotter entre les scènes d'action.
En fait, pas entre. La première moitié du livre, on donne beaucoup d'informations. Et à partir de la moitié, boum, c'est parti, ça s'accélère et ça devient très haletant, comme le roman qu'on se met à lire à l'accélérer à partir de la moitié.
Alors, il y a une chose qu'on n'a pas encore dite, Pénélope Bagieu, c'est que ce Sacré Sorcière chez Gallimard, c'est la toute première fois que Roald Dahl est adapté en bande dessinée dans le monde. Il existe une Roald Dahl Story Company qui gère les droits d'auteur, c'est les descendants de Roald Dahl qui gèrent l'héritage culturel. Comment est-ce que c'est arrivé? Comment est-ce que c'est vous qui vous êtes retrouvé à faire cette première adaptation en bande dessinée?
Il faut croire en ses rêves, les enfants, tout arrive. En fait, c'était une idée à eux. À l'origine, puisqu'effectivement, ils se sont rendus compte que ils avaient fait à peu près toutes les formes d'adaptation de l'œuvre de Roald Dahl, sauf de la bande dessinée, ça leur était pas encore venu à l'esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils ont décidé de faire ça, ils se sont naturellement tournés vers leur éditeur français, en se disant, si on doit faire la bande dessinée, c'est avec les Français. Donc, je trouve que c'est quand même assez cool. Et après, moi, le deuxième volet de ma chance, c'est que l'éditeur en question est pensé
Gallimard,
pensait à me le proposer à moi. Mais avec pas de titre en particulier. C'est-à-dire, c'était une proposition ouverte de « et pourquoi pas adapter un roman de Roald Dahl ?» Et donc, ma contre-offre immédiate, c'était « est-ce que ça peut être Sacrée Sorcière ?» Parce que si c'est le cas, ça va être super, ça va vraiment être...
Et donc, vous vous êtes plongé dedans avec enthousiasme, on imagine. Est-ce qu'il y a quand même une certaine pression à se dire que ça va être une sortie, d'ailleurs, sans doute mondiale, résultat? Est-ce qu'on est attendu au tournant? Est-ce qu'on se sent attendu au tournant quand on adapte Roald Dahl? Vous parliez des autres adaptateurs en cinéma, par exemple, c'est quand même Spielberg.
Wes Anderson,
et bien sûr...
Tim Burton,
voilà.
Peut-être que je suis complètement inconsciente, mais non, ça m'a pas mis la pression. Notamment parce que je savais que j'allais écrire quelque chose d'assez différent et que j'allais raconter mon histoire à moi, donc ça allait être assez facile de me décoller du roman d'origine. Au contraire, c'est plutôt un confort, honnêtement, de réadapter une histoire qui est aussi bien écrite, quelle ossature géniale pour broder. C'est-à-dire que j'étais vraiment très rassurée sur la qualité de l'histoire. J'avais pas tellement à me questionner sur est-ce que la fin est bien, est-ce qu'on croit au personnage. En fait, j'avais vraiment c'est plutôt cool en fait d'adapter Roald Dahl, c'est assez facile.
Est-ce que tu as aimé être ami avec Roald Dahl?
Oh yes, very much.
Oui.
Yes, he was a very nice man. He was a bit frightening.
C'était un peu effrayant parce qu'il était beaucoup plus grand que moi.
And he could be very bad.
Il pouvait être de très mauvaise humeur.
But he was a very nice man actually.
Mais c'était un homme très gentil.
Very enthusiastic.
Très enthousiaste lorsqu'il voyait mes dessins. Well.
What he liked was teasing people. He liked that and he used to
Il aimait particulièrement taquiner les gens. Il se moquait de moi.
Of me, a bit.
Un peu. Mais je savais que c'était juste pour rire, parce qu'il y avait une lueur dans ses yeux quand il le faisait. Il ne me parlait jamais d'une histoire avant de l'avoir écrite. Il me disait, oh, tu vas bien rigoler avec celle-ci. Parfois, il me disait, oh, Quint, tu vas avoir des problèmes avec celle-là. Il y avait toujours tellement de choses intéressantes à dessiner. C'était bien.
Un extrait d'un documentaire de Catherine Guillardier et Nathalie Salle sur France Culture, sur le bon gros géant de l'illustration. Pénélope Bagieu, je vous laisse nous dire qui est ce bon gros géant, ce Quint qui parle de son amitié avec Roald Dahl.
C'est Quentin Blake, bien sûr, qui est le binôme de Roald Dahl. C'est plus que son illustrateur, c'est vraiment son binôme.
son binôme, et pour des millions de lecteurs à travers le monde, ce sont les images officielles de Roald Dahl. Alors, je ne vais pas vous demander si vous avez encore eu la pression à succéder à Quentin Blake, parce que vous êtes imperméable à la pression, mais est-ce que vous pouvez peut-être tout simplement nous parler de ce dessinateur que Quentin Blake, nous dire sans doute pourquoi vous avez d'abord aussi apprécié et adoré ses dessins?
Alors, pression quand même, si. C'est-à-dire que jamais j'aurais accepté d'illustrer le roman à nouveau. J'aurais pas... Je vois vraiment pas l'intérêt de passer après lui. Il y a rien à ajouter à ce qu'il a fait. Et puis c'est tellement indécollable de l'histoire pour tout le monde. Mathilda, c'est la Mathilda de Blake. Pour en fait, ça n'aurait pas d'intérêt de repasser derrière lui. En revanche, faire de la bande dessinée, c'est autre chose qu'illustrer un texte. Donc c'était moins un problème. Dans la bande dessinée, j'ai glissé un petit clin d'œil. J'ai repris une image telle quelle, qui est une des images des illustrations de Blake. Les vrais la retrouveront. Je l'ai mise en scène exactement pareil. C'est vraiment un hommage.
Est-ce que c'est celle où les sorcières enlèvent leurs perruques?
Non.
Non, il m'a semblé. Non, pas celle où les sorcières enlèvent leurs perruques. Celle où les sorcières se transforment en souris. J'ai trouvé qu'il y avait dans la...
Ben, il faut pas raconter la fin, là.
On raconte... Allez,
non, c'est pas celle-là, mais je montrerai.
D'accord. Je me suis demandé, moi, si celle-là, il n'y avait pas, dans la façon de faire un peu plus vite, certaines images, une façon de...
Non, après, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, c'est un bain dans lequel j'ai été pendant tellement longtemps, là, ces illustrations, et encore aujourd'hui. Enfin, je suis encore allée voir ses dessins à la House of Illustration à Londres, il y a 2 mois. D'ailleurs, c'était des dessins qu'il a fait l'été dernier. Et c'est magnifique et magistral. Et cet homme ne vieillit pas, c'est vraiment un mystère. Donc évidemment que ça a de toute façon un peu déteint sur ma façon de dessiner, parce que j'admire tellement son travail. Mais les personnages sont en fait pas les mêmes. Donc ils avaient une apparence, un look et une façon de se déplacer qui était quand même induite par mon histoire. Et ça aurait... c'est plus les mêmes gens.
On va parler de ces personnages, mais vous disiez à l'instant que c'est une chose d'illustrer un roman, et c'en est une toute autre, de l'adapter en bande dessinée. Mm-hmm. Alors justement, quand il s'agit d'adapter, il y a tout un travail avant de découpage, de séquençage. Comment est-ce que vous y êtes pris? Est-ce qu'il y avait des scènes qui étaient absolument obligatoires, sacrées, et puis d'autres où vous deviez trouver des façons de faire de la bande dessinée, c'est-à-dire de faire des cases qui font des séquences, qui font une histoire?
En fait, c'était assez naturel parce que... plus que le découper, etc., en fait, il faut le réécrire. C'est-à-dire, il faut prendre cette histoire qu'on connaît très bien, comme si on racontait une anecdote qui nous arrivait, et se demander comment moi, est-ce que moi, je la raconte à quelqu'un qui n'a jamais lu le livre. Et du coup, je peux la raconter complètement à ma sauce. Je peux enlever ce qui m'arrange pas. Il y a des scènes qui, effectivement, sont normalement décrites en 3 lignes, et là, il va falloir que ce soit un peu visuel. Et puis, les personnages sont obligés d'être différents. Donc, en fait, c'est assez facile à écrire. Quand on a son histoire en tête très nettement, évidemment il y avait des scènes auxquelles j'étais vraiment impatiente de me frotter, mais presque par une forme de catharsis, quoi. C'est qu'il y a des scènes qui m'ont tellement traumatisée que je me disais, je vais régler un truc en dessinant cette scène, pour toutes ça va...
Il y a une scène, moi, à laquelle je pense, qui est très forte, et dans le roman et dans votre bande dessinée, peut-être que c'est une de ces scènes-là, et qui est un peu spéciale, c'est cette scène où le narrateur voit sa première sorcière. Il est dans un arbre et une femme arrive et bon, on se dit que c'est une sorcière, mais on n'est pas d'abord tout à fait sûr. Il y a quelque chose d'un peu spécial. Ce qui est intéressant, c'est que Roald Dahl met cette scène qui ne sert pas vraiment l'intrigue. Elle est là juste pour, mais planter une atmosphère. Mais alors, elle la plante de façon très très forte. C'est une des scènes. C'est vrai qu'elle est très bien racontée et parfaitement adaptée en bande dessinée dans votre livre. C'est une des scènes très fortes, il m'a semblé.
C'est assez évident à mettre en scène parce que je la connais par cœur, cette scène. Elle m'a tellement, tellement, tellement fait peur que j'ai qu'à retranscrire l'émotion que j'ai eue en la lisant quand j'avais 8 ans et que j'étais j'ai presque dormi avec la lumière allumée pendant 2 semaines à cause de cette scène. Donc c'était très simple de me remettre dans cette émotion de j'ai 8 ans, je suis en train de faire une cabane dans les arbres et tout d'un coup une dame m'appelle. Et il y a quelque chose de bizarre avec ses yeux et avec son sourire, clairement.
Mais comme Roald Dahl, vous n'en avez pas trop rajouté sur les caractéristiques physiques de la sorcière, dont les dents doivent être bleutées, par exemple, puisque les sorcières ont de la salive bleue. Mmh. On regarde, est-ce que la vôtre... c'est très, très léger, très le léger. Travail de la coloriste, puisque c'est une coloriste qui a...
Oui,
qui
s'appelle Drac.
Est très subtile. J'imagine que c'était votre idée aussi.
Il faut que ce soit progressif.
D'entretenir le doute un tout petit peu, même si elle est quand même franchement bizarre, cette femme.
Oui, elle est bizarre, puis elle lui offre un serpent quand même, donc c'est quand même curieux comme cadeau venant d'un inconnu. Mais c'est très progressif, de toute façon. Là, au début, on se dit que cette grand-mère qui lui parle des sorcières, elle a inventé cette histoire, c'est pas possible. Et puis lui, il en voit une, alors quand même le doute s'installe un peu, et puis jusqu'au moment, il se retrouve confronté à elle de manière très... très concrète et très réelle. Et là, il n'y a plus de doute possible.
Alors l'atmosphère est très importante et l'intrigue, l'inquiétude monte au fur et à mesure du roman. Dans votre travail d'adaptation, Pénélope Bagieu, on sent que l'atmosphère aussi a été très importante pour vous. Il y a certaines cases qui sont laissées sur fond blanc, et puis il y a certaines cases dans lesquelles il y a des décors et même quelquefois des pleines pages d'illustrations pour le coup. Et dans ces cases ou dans ces images, énormément de détails. On sent que vous avez pris beaucoup de plaisir à faire certains détails de mobilier, de vêtements, de végétation. C'était important pour vous d'avoir la place, quelquefois, de faire ces grandes images qui peuvent frapper, on imagine, l'imagination des plus jeunes lecteurs.
Je pense qu'un lecteur jeune, on peut moins lui raconter des blagues et le trimballer qu'un adulte. Un adulte, on peut lui dire, et là, c'est un fond de couleur uni, de manière un peu abstraite, ne rentrons pas dans les détails. Un enfant, on ne peut pas lui mentir, il faut qu'il y ait des détails. Moi, je me souviens qu'à cet âge-là, je pouvais passer des heures à regarder la même image pour regarder chaque détail de la cuisine, chaque petit tiroir, et qu'il faut qu'on puisse regarder les images pendant une heure. Et donc, on peut moins les duper, les enfants. Il faut leur mettre du décor et du détail, donc c'était assez agréable. Et puis, encore une fois, pour planter une ambiance, je savais comment devait être cet hôtel qui est un peu bizarre, rococo, qui en même temps est un casino. Enfin, en fait, ça peut passer que par une multitude de détails.
Alors, par exemple, à quoi est-ce que vous avez fait attention d'abord? Comment est-ce qu'il devait être cet hôtel? Décrivez-le nous un petit peu.
Mais c'est un hôtel de Brighton, en gros, quoi. C'est un hôtel un peu anciennement de luxe, un peu décrépit, de la côte anglaise en plus. Donc vraiment, moyennement rêvé. Et je voulais... Normalement, c'est un vieil hôtel anglais, un peu classe. Et moi, je m'étais dit qu'aujourd'hui, ce serait certainement un peu un genre de casino avec des palmiers en plastique. Et puis, qu'il y a des airs hyper grandiloquents avec du faux marbre et puis du carrelage noir et blanc et un piano. Mais en même temps, tout est un peu usé, un peu cheap. Et puis, en fait, à l'intérieur, c'est que des gens qui viennent aux machines à sous. Et puis, voilà.
Et tout ça, en plus, est souvent vu en contre-plongée, puisque on ne dévoile pas la toute fin. Mais il y a quand même des personnages qui se transforment en souris, voilà, dont le narrateur. Et donc, ils voient tout d'en bas, tout immense. Et alors là, on pense à Bernard et Bianca, à Ratatouille, à toutes les souris héroïnes. Mais ces décors disproportionnés et gigantesques, c'était aussi, là, on sent que vous avez travaillé les détails de ces décors, parce qu'il y a des gros plans, il y a des choses amusantes à faire.
Mais ça, c'était vraiment un régal, ce changement d'échelle, parce que ça amène des réflexions de mise en scène qui sont un casse-tête tellement rigolo. C'est de se dire, si je faisais 10 cm et que je devais monter des marches en tenant une fiole avec ma queue, alors comment je m'y prendrais? Et en fait, il faut, quand on est auteur de BD, on est obligé de vivre les scènes qu'on dessine pour être sûr que ces gestes sont bons. Et donc là, c'était quand même de me demander comment j'ouvrirais une poubelle de salle de bain si j'avais le poids d'une souris.
Et donc de décomposer quelquefois, voilà, la séquence en 4 ou 5 ou 6 images successives. Et alors dans les petits détails, puisqu'il y en a plein, je l'ai dit, il y a par exemple un truc moi que j'ai remarqué qui n'est pas vraiment pour les enfants. Sur la table de nuit de la grand-mère, il y a une pile de livres, il y en a un qui est Dune.
C'est pas la sienne, c'est la pile de livres des parents.
Ah, des parents.
Mais oui.
Et pourquoi vous avez mis Dune? Parce qu'il n'y en a qu'un qui a un nom. Est-ce que c'est un clin d'œil à quelqu'un?
Déjà parce que j'étais en train de relire Dune quand je finissais d'écrire Sacrée Sorcière. Voilà, c'est Frank Herbert, où que tu sois, si tu nous entends. Non, c'était... Je place des choses que j'aime bien dans les livres.
Alors, on a parlé un peu de l'adaptation graphique et de votre dessin, Pénélope Bagieu, mais je voudrais qu'on parle un peu du propos et du fond de ce livre. Et pour cela, je voudrais qu'on écoute un petit peu Roald Dahl dans un documentaire de Virginie Bloch-Lenné et Anne-Pascale Devine pour Une vie, une œuvre sur France Culture.
When you're writing a book with people in it as opposed to animals, it is no good having people who are ordinary, because they're not going to interest your readers at all.
Quand vous écrivez un livre, il ne faut pas des personnages ordinaires, parce qu'ils n'intéresseront pas les lecteurs. Tous les écrivains du monde inventent des personnages qui ont quelque chose de particulier. Et c'est encore plus vrai dans un livre pour enfants. Je pense que la seule façon de rendre mes personnages vraiment intéressants pour les enfants est d'exagérer toutes leurs qualités et tous leurs défauts. Par exemple, si une personne est odieuse ou cruelle, il faut qu'elle soit franchement odieuse, très cruelle. Si les personnages sont vilains, il faut qu'il soit très vilain. À mon avis, c'est ce qui est amusant et c'est ce qui frappe les lecteurs.
Person is nasty or bad or cruel, you make them very nasty, very bad, very cruel. If they're ugly, you make them extremely ugly. That, I think, is fun and makes an impact.
Thank you.
Alors Pénélope Bagieux, après les atmosphères, les personnages, c'est ça la vraie force des romans de Roald Dahl pour vous, ces personnages extrêmement forts, extrêmement bien campés, extrêmement exagérés?
C'est la force de toutes les histoires auxquelles on s'attache. Je pense que c'est des personnages forts. L'histoire, en fait, on s'en fiche un peu. Bon, là, en l'occurrence, il arrive des choses assez extraordinaires, mais c'est vrai que si on avait des personnages ordinaires, je sais pas, mais auxquels on n'arrive pas à s'attacher, en tout cas, ça ne ferait pas cet effet qui est commun à tous les livres qu'on aime, qui est qu'une fois qu'on a refermé le livre, on a envie de passer plus de temps avec eux et qu'on est triste que ça s'arrête. Donc, moi, j'ai pas mal orienté l'histoire autour du personnage de la grand-mère, qui pour moi est vraiment l'héroïne du livre. Qui en plus est une figure de sorcière moderne complètement, dans le sens où elle est indépendante, hyper forte, complètement transgressive et assez débrouillarde. Et je voulais qu'on l'aime très fort, en fait. Mais ça, c'est une démarche assez égoïste, c'est que déjà, moi, je vais passer un an et demi à la dessiner. Donc moi, il faut que je l'aime très fort et que je la trouve super.
Alors vous êtes amusé à la dessiner, il faut la décrire. C'est un personnage tout petit, c'est presque la seule qui est disproportionnée dans toute
cette... Il m'a fait la taille de son petit-fils de 8 ans.
Voilà, avec des cheveux violets comme Maminova, mais un petit peu plus haut encore, enfin disproportionné aussi. Habillé avec des leggings léopard, des mules en fourrure rose à la semelle compensée, des bijoux fantasy ou des breloques un peu partout. C'est un personnage, sans doute celui avec lequel vous avez pris, on va parler d'autres, mais celui-là, vous l'avez investi de quelque chose qui vous était personnel. C'est pas la grand-mère de l'œuvre de Roald Dahl, qui est d'ailleurs norvégienne, et c'est quelque chose d'important dans le roman, puisque Roald Dahl est d'origine norvégienne, et la grand-mère est norvégienne, et ça se passe en partie en Norvège, ça vous avez gommé cette dimension.
En fait, lui racontait sa grand-mère, et je pense que c'est comme ça qu'il a réussi à dépeindre avec autant de tendresse ce personnage qui est si fort et qui donne l'impression que avec elle il pourra jamais rien arriver de grave et qu'elle est tellement rassurante et à la fois elle fume le cigare, elle est un peu... Mais en fait ce qui compte c'est cette émotion qu'il a transmise, vraiment particulièrement je pense parce qu'il parle de sa grand-mère à lui. Donc ça n'avait pas de sens que je parle de sa grand-mère à lui, moi, donc je parle de la mienne. En fait c'est ma grand-mère paternelle qui était vraiment exactement comme ça et qui m'a toujours donné l'impression qu'avec elle il pourrait rien arriver de grave, même si elle était toujours un peu à côté de la plaque et que effectivement elle avait des teintures de cheveux qui parfois rataient un peu et qu'elle avait un goût très prononcé pour les imprimés animaux, mais elle avait une tendresse dans ses gestes, dans sa façon un peu maladroite de m'attraper les joues que vraiment je voulais retranscrire parce que je pense qu'il n'y a que comme ça que je peux sincèrement créer un personnage attachant, c'est en parlant de la personne qui pour moi évoque de manière totale toutes ces choses-là, et en particulier dans mes souvenirs de quand j'étais petite. Donc
Et c'est vrai qu'il y a des scènes très tendres avec cette grand-mère, même si le trait principal qui ressort c'est son côté anticonventionnel, très libre, dont vous parliez, qui en font une sorcière moderne justement. Mmh. Elle dit à un moment, vous lui faites dire, il suffit qu'une femme ne soit pas mariée et qu'elle se soigne avec des plantes pour qu'on l'accuse autrefois d'être une sorcière. Vous l'avez dit, elle fume des cigares. Elle ne va pas, comme dans le livre, jusqu'à proposer à son petit-fils de 8 ans de fumer. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut plus faire aujourd'hui dans une bande dessinée? Ou est-ce que ça vous intéresse?
Ça m'est même pas venu à l'esprit. Non, elle lui propose de l'alcool. Elle lui propose de jouer au casino. Elle est assez open quand même.
Il n'y a pas de chose que vous avez voulu édulcorer en adaptant Roald Dahl. Parce qu'il y a quand même, quand on lit ses romans, en général, alors les romans pour adultes, c'est encore... Ouais. C'est quelqu'un d'assez sombre, d'assez cynique, d'assez... les personnages qui dépeint sont toujours des gens atroces, en fait, à part les bons. Il n'y a pas eu de volonté de diminuer un peu l'horreur de certaines scènes qui sont décrites, y compris dans Sacrée Sorcière.
Non, c'est marrant parce qu'en introduction, en illustration, vous passez un extrait du téléfilm qui a été adapté de Sacrée Sorcière, pour lequel on a changé la fin, parce que les studios d'Hollywood trouvaient que c'était trop dur. Ouais. C'est-à-dire que les histoires de Roald Dahl sont trop dur en fait pour être des films, donc on a changé la fin pour que ça se finisse bien, alors que chez lui ça se finit quand même pas génial, mais j'ai un peu changé la fin quand même pour que ce soit moins dur.
Alors il y a aussi d'autres choses que vous avez changées, en particulier vous avez créé, on peut dire, un personnage. Il y a dans le livre de Roald Dahl, il y a un petit garçon insupportable qui mange tout le temps, qui a des parents insupportables aussi, auxquels le petit-fils et sa grand-mère vont avoir affaire. Vous avez transformé ce garçon en une petite fille, sympathique, maligne, débrouillarde, qui devient une amie du narrateur. Et ses parents, vous les avez transformés en un drôle de couple de psychothérapeutes bio, on pourrait dire, qui en fait, sans le dire à leur fille, boivent de l'alcool, c'est une grande surprise, jouent au casino dans cet hôtel un peu bizarre. mais qui sont quand même des gens plutôt sympas. Comment est-ce qu'ils vous sont venus ? On va parler de la fille après, mais d'abord ses parents. Ils sont finalement, il y a une petite. Enfin, on se demande vraiment qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ses parents.
Quelle la part autobiographique ?
Non, pas quelle la part autobiographique, mais il y a pas là pour le coup. Roald Dahl disait qu'il faut des personnages extrêmement exagérés. Là, il y a une sorte de subtilité un peu dans ces personnages. Ils ont quelque chose d'assez réel.
Bon, déjà, à partir du moment où je les inventais, c'était l'occasion de les inventer exactement comme je voulais, donc je pouvais faire les parents que j'avais envie. C'est l'avantage de cette carte blanche.
Mais vous les aimez, ces personnages ? Enfin, vous trouvez qu'ils sont aimables ou pas ?
Je les trouve un peu nuls et un peu à côté de la plaque, mais touchants. Et puis, je me souviens quand même, c'est compliqué de s'en raconter à la fin, mais je me souviens quand même qu'elle est très seule, la fin. Quand même, c'est un héros qui n'a plus rien. À la fin, il est... Bon, déjà, il a plus de parents, bon, c'est compliqué. Et l'idée que les parents nous aiment quoi qu'il arrive, c'est que ça peut être compliqué pour eux. Les parents, parfois, ils sont un peu lents. C'est ce que Roald Dahl dit souvent dans le livre. Il dit, il faut savoir que les adultes ne comprennent rien. C'est le problème des adultes, c'est qu'ils ne comprennent jamais rien. Mais oui, mais ils ont quand même un bon fond, les parents. Et c'est important pour un enfant de se dire, parfois, mes parents sont un peu à la ramasse, mais ils m'aiment fondamentalement quoi qu'il arrive. Donc, je voulais des parents qui aiment leurs enfants.
Et alors, cette petite fille, donc... Mettre une petite fille dans un roman dans lequel il n'y en avait pas, mettre une héroïne féminine, autre que la grand-mère, qui est un personnage absolument pittoresque, mais c'était, bon, c'était important pour vous ?
Bah oui.
Oui, on va pas reparler des culottés, du féminisme, tout ça.
Mais... Moi, j'ai lu ce livre sans me poser du tout de questions par rapport à l'identification au héros quand j'étais petite, parce que comme toutes les filles, je sais le faire inconsciemment, c'est-à-dire... m'identifier à un héros masculin, mais je trouve que tant qu'à faire, si on peut proposer une alternative aux filles et aux garçons qui lisent ce livre, qui est de dire, le héros est cool, mais regarde, il y a aussi une héroïne qui est cool, si ça t'intéresse, elle est là, elle est courageuse, elle est rigolote, c'est-à-dire qu'elle est drôle elle-même, elle ne fait pas que passer les plats au héros, elle a une vraie histoire, elle a des bonnes initiatives, elle est bonne, elle est fondamentalement bonne, voilà, je pose ça là, il y a aussi une héroïne, et... Je pense que c'est des tout petits marqueurs qu'on pose, mais qui sont quand même importants.
Alors ce livre sort la semaine prochaine, le 29 janvier. Il va sortir, on imagine, dans beaucoup de pays.
J'espère bien.
Et est-ce que c'est un premier ? Et est-ce que c'est déjà prévu qu'il y en ait d'autres ? Parce que vous avez choisi celui-là en premier, mais...
Alors, je fais rarement deux fois les mêmes choses. Et vraiment, je suis pas du tout intéressée par l'expérience de l'adaptation dans l'absolu. Je suis ravie d'adapter Sacrée Sorcière, et c'est tout. Je veux pas du tout faire d'adaptation plus que ça.
Eh ben merci beaucoup Pénélope Berrieux et félicitations pour cette adaptation extrêmement réussie.
Merci.
Sur le site du Rayon BD, vous pourrez bien sûr retrouver toutes les références de ce livre, de ces sacrées sorcières qui seront donc dans toutes les librairies la semaine prochaine, le 29 janvier. Vous pourrez aussi trouver les liens qui vous permettront d'écouter les documentaires sur Roald Dahl et sur Quentin Blake dont nous avons passé des extraits aujourd'hui et vous pourrez bien sûr réécouter cette émission et les précédentes. Le Rayon BD était comme chaque semaine préparé avec Pascaline Bonnet, Delphine Lemaire était à la réalisation et Dalia à la technique. La semaine prochaine, nous serons à Angoulême, vous aussi Pénélope Bagieux ?
Eh oui.
Pour dédicacer Sacrée Sorcière ?
Eh oui.
Bon, alors nous y serons, nous enregistrons notre émission en public à l'Espace Franquin le vendredi 31 janvier à 15h30. Je donne donc rendez-vous à tous nos auditeurs angoumoisins ou festivaliers à venir à cet enregistrement. Mais dans quelques instants, en attendant, vous avez rendez-vous avec Aurélie Luneau pour le magazine de l'environnement de Cause à Effet.